Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le lupus systémique et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Costedoa Chalumeau. Professeur Costedoa Chalumeau, bonjour.
Bonjour.
Professeur Costedoa Chalumeau, vous êtes médecin interniste au sein du service de médecine interne de l'hôpital Cochin à Paris, qui est également centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares de la filière FAI2R. Et vous avez participé à la rédaction des nouveaux critères internationaux de classification pour le lupus, ainsi qu'au récent PNDS sur le lupus systémique. Alors, professeur Costedoa Chalumeau, nous abordons aujourd'hui le diagnostic du lupus systémique. Et tout d'abord, quand est-ce qu'il faut penser à un lupus systémique ?
Eh bien, en général, il s'agit d'une patiente plutôt jeune, une femme dans 9 cas sur 10, qui peut avoir des signes évocateurs. Donc, le plus classique, ça va être l'atteinte cutanée, notamment au niveau du visage, avec la sensibilité au soleil. Ça va être d'un tableau de polyarthrite bilatérale symétrique, essentiellement au niveau des mains. Voilà, mais ça peut se présenter sous la forme d'une péricardite, d'une atteinte rénale, essentiellement. Et c'est là qu'il va falloir y penser, notamment devant une protéinurie. Et puis, ça peut s'associer au syndrome des antiphospholipides, qui est une maladie qui est responsable de thrombose et de problèmes obstétricaux. Et donc, quand il y a un syndrome des antiphospholipides, on recherche un lupus associé. Donc, c'est les cas les plus fréquents.
Et justement, dans ces circonstances, comment effectuer le diagnostic de lupus ?
Alors, le diagnostic, il repose d'abord sur la clinique, parce que pour parler de lupus, il faut qu'il y ait une manifestation clinique. Quand il n'y a que des anticorps, on ne parle pas de lupus, on parle de biologie lupique seulement. Donc, il faut un élément clinique, à nouveau, les manifestations cutanées, la polyarthrite, l'atteinte rénale et la péricardite pour les plus fréquentes. Voilà, et une fois qu'on a cette suspicion, on va demander des anticorps. Donc, le test de débrouillage, c'est les anticorps antinucléaires. S'ils sont négatifs, vous pouvez oublier, votre patiente n'a pas de lupus. S'ils sont positifs, elle a peut-être un lupus, parce que des anticorps antinucléaires, c'est non spécifique. Ça se voit chez les patients en très bonne santé. Ça se voit quand il y a des infections virales, par exemple, comme l'hépatite C, quand il y a certains médicaments qui peuvent induire cette biologie. Donc, ce n'est pas les anticorps qui font le lupus. Donc, on a d'abord les anticorps antinucléaires qui est le premier anticorps de débrouillage. Et après, on va affiner en cherchant les anticorps anti-ADN natifs et puis les anticorps anti-ECT ou ENA ou antigène nucléaire soluble. Tout ça, c'est la même chose, qui avec notamment l'anti-SN qui est tout à fait évocateur de lupus. Bon, puis après, on va dans des choses un peu plus compliquées, le complément, etc., qui vont être plus la ferme du spécialiste qui verra la patiente dans un deuxième temps. Et toujours, quand on évoque le diagnostic de lupus, il faut qu'on ait une protéinurie, alors à la bandelette si c'est possible évidemment, ou sinon au laboratoire une protéinurie sur échantillon, avec créatininurie s'il y a des positifs pour pouvoir la calculer, parce que la question toujours c'est ce qui est une atteinte rénale associée, et que ça c'est asymptomatique, en tout cas pas tout le début de l'atteinte est asymptomatique, et donc il faut la rechercher systématiquement quand on évoque ce diagnostic.
Et dans ce cadre, hein, professeur Costedoa Chalumeau, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, je dirais qu'il y a plutôt un problème de surdiagnostic dans le lupus, puisqu'on voit arriver des patientes. Alors, ça peut donner une perte de cheveux, alors, par exemple, qui perdent un peu leurs cheveux, ou qui sur le visage ont un peu de rosacée, pas du tout du lupus, mais c'est confondu, parce que ça ressemble, et la rosacée étant beaucoup plus fréquente que le lupus, ou qui a un petit peu d'arthrose, de polyarthralgie, pas très évocatrice, et puis quelqu'un m'a commandé des anticorps antinucléaires qui, comme je l'ai dit, sont souvent positifs, même dans la population générale, et des patientes qui arrivent avec un diagnostic de lupus qu'elles n'ont pas. Donc c'est quand même, le plus souvent, on a plutôt tendance à enlever l'étiquette qu'à la rajouter alors que le diagnostic n'a pas été fait. Bon, après, si la présentation est très articulaire, le diagnostic principal, diagnostic différentiel principal va être la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, mais je dirais que le diagnostic, en fait, n'est pas très difficile parce que quand on y pense, il y a la biologie qui va nous aider. Il faut toujours penser au lupus induit. Hein. En médecine, beaucoup de choses sont iatrogènes. On arrive à reproduire à peu près toutes les maladies ou les symptômes avec des traitements. Et il y a d'authentiques lupus qui vont être induits par des médicaments, comme par exemple les bêta-bloquants, les cyclines données pour de l'acné. Et ça, il faut l'évoquer parce que en arrêtant le traitement inducteur, on va possiblement, ou en tout cas on a une bonne chance d'avoir les choses régresser lentement et du coup que de pouvoir ensuite diminuer les traitements, voire les arrêter.
Alors, en cas de suspicion ou de diagnostic avéré, à qui est-ce qu'on peut adresser ces patients?
Alors là, ça va dépendre un petit peu de la forme du type de lupus, parce qu'il y a des lupus très différents. Il y a ceux qui sont pas graves du tout, avec des manifestations cutanées ou articulaires qui vont rester de ce type-là avec une poussée de temps en temps. Bon, qui peuvent être vues par un médecin qui connaît, voire certains rhumatologues ou internistes sont très très capables de gérer, même s'ils n'ont pas une expertise sur le lupus. Et puis, il y a des formes plus graves, notamment chez les patients plus jeunes, s'il y a une atteinte rénale, etc. Et ça, idéalement, avec l'organisation qu'il y a maintenant en France, un centre de référence ou de compétence pour le lupus est adapté. Et dans le cadre de la filière, toutes les coordonnées sont disponibles, je pense, sur le site Internet.
Et dans ce cas, dans l'attente d'un rendez-vous avec un centre de référence ou de compétence, quels examens à réaliser s'il y a suspicion de lupus?
Alors, à nouveau, je pense que le plus important, c'est la protéinurie. Parce que si vous avez une protéinurie positive, vous n'allez pas attendre 3 mois d'avoir un rendez-vous. Il faut décrocher son téléphone ou envoyer un mail et obtenir un rendez-vous dans la semaine avec un médecin expert dans ce cas. On est tous à répondre. Enfin, moi, quand je reçois un appel comme ça, on prend les patients tout de suite. Donc ça, c'est vraiment le débrouillage pour savoir si ça peut attendre ou pas. Si la protéinurie est négative avec un patient moins grave ou enfin, qui ne pose pas de problème majeur, il y a beaucoup moins d'urgence. Alors, les examens, une fois qu'on a fait la protéinurie, ben, on demande des anticorps antinucléaires à nouveau parce que je redis que s'ils sont négatifs, on peut oublier ce diagnostic de lupus. Et que s'ils sont positifs, il ne faut pas retenir le diagnostic, mais il faut aller plus loin avec les anticorps que j'ai cités tout à l'heure. Donc, effectivement, une biologie lupique de débrouillage va faire gagner du temps.
Eh bien, merci mille fois, professeur Cossedelois-Chalumeau, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le lupus systémique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !